Nekeluka.
Sur les ondes de radio Nekeluka, tout de suite le journal, une présentation de Karine Estelle Begbe. Karine, bonjour.
Bonjour Cyrus Armand Zemongi Kete, bienvenue à tous dans cette édition, le sommaire. Célébration grande pompe à Bangui de la Journée internationale de l'aide humanitaire. Nous rendons hommage au travail des femmes en situation de crise dans le monde entier. C'est le thème retenu cette année. Le calme est revenu au kilomètre 5 dans le 3e arrondissement de Bangui. Une violence entre hommes armés a fait 2 morts, dont un civil hier, dans ce secteur. Et puis, colère des étudiants de l'université de Bangui. Ils ont manifesté ce matin devant le ministère de l'Enseignement supérieur pour demander l'annulation de l'arrêté portant nomination de 2 des leurs à la commission de bourse. Du football, Aston Petr Mokaf affronte ce soir la sélection de Bagandou en match amical. Les Rouges et Noirs se préparent à affronter El Nars de Benghazi en match retour de la Ligue des Champions. Ouvrons ce journal avec la célébration ce lundi de la Journée mondiale de l'aide humanitaire, occasion de rendre hommage aux femmes qui ont donné leur vie ou qui ont fait face au danger et à l'adversité pour aider les autres. Les manifestations et relatives se déroulent depuis ce matin à l'Omnisport à Bangui. Armand Yangidi.
Selon l'ONU, les travailleurs humanitaires aident des millions de personnes à travers le monde. Cette année, la journée est de rendre hommage aux femmes en situation de crise dans le monde entier. D'après les Nations Unies, les femmes constituent un grand nombre de tous ceux qui risquent leur vie pour sauver les autres. Elles sont souvent les premières à agir et les dernières à partir. Pour Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, les femmes contribuent à étendre la portée des opérations humanitaires et à accroître leur efficacité. Occasion pour le patron de l'ONU d'interpeller les dirigeants mondiaux ainsi que toutes les parties en conflit de garantir la protection des agents humanitaires conformément au droit international. Des violations graves du droit international humanitaire et des droits de l'homme continuent d'être commises dans le monde entier. Elles doivent faire l'objet d'enquêtes et de poursuites judiciaires, renchérit M. Guterres. En Centrafrique, le bureau de la coordination des affaires humanitaires OCHA a souligné qu'au premier semestre de cette année, la situation humanitaire reste et demeure complexe. Selon son rapport publié au début de ce mois, 130 incidents ont été répertoriés contre les acteurs humanitaires, dont 3 tués, ce qui fait de la République centrafricaine l'un des pays les plus dangereux au monde pour les humanitaires. Plus de 60% de la population centrafricaine ont besoin d'une assistance humanitaire et d'une protection. Hier dimanche, Radio Nekeluka, en partenariat avec la communauté internationale, a organisé une caravane radio mobile pour sensibiliser la population banguissoise sur le rôle et l'utilité du travail des humanitaires dans ce pays en proie à l'insécurité.
Merci à vous, Armand Yanguindi.
Karine, le ministère de la Santé rassure les parents sur la qualité du vaccin contre la poliomyélite.
Réaction pour couper court à certaines rumeurs selon lesquelles le produit utilisé est expérimental et dangereux pour la santé. Selon le ministère de la Santé, ces informations sont fausses. Il appelle les parents à faire vacciner massivement leurs enfants pendant cette campagne en cours. Docteur Marthe Kirima, chef de service de la promotion de la santé, au micro de Igor Deskin-Sinapai.
Ce vaccin existe depuis plus de 50 ans. Et depuis plus de 50 ans, ce vaccin a été traité. Ce vaccin a été contrôlé plusieurs fois. Donc, il est inoffensif. Et quand on met un vaccin à la disposition de la population, ce n'est pas seulement pour protéger la population centrafricaine, mais c'est pour protéger et la population centrafricaine, et la population de la sous-région africaine, et la population africaine, et la population mondiale. Donc, c'est un produit qui n'est pas seulement utilisé dans notre pays, la République centrafricaine, mais c'est un produit qui est utilisé partout dans le monde. Vous pensez qu'on peut utiliser un produit pour faire du mal à la population? Déjà que nous, dans notre pays, nous ne sommes même pas nombreux. Les centrafricains ne font même pas, malgré l'étendue de notre territoire, 623 000 km², nous ne comptabilisons que 5 millions d'habitants. Donc notre but, c'est pour que la population centrafricaine soit en bonne santé pour développer son pays.
C'était Dr Marthe Kirima, chef de service de la promotion de la santé.
Le calme est revenu depuis ce matin au kilomètre 5.
Ceci après les détonations d'armes lourdes et légères aux premières heures de la matinée d'hier. Selon certaines sources, un élément des groupes armés et un civil sont morts dans les échauffourées. Un papier de Armand Yanguindi rendu par Inès Laurent-Gopo. Tous seraient partis d'une scène de braquage orchestrée par un élément armé du chef de gang 5 minutes, le remplaçant de 50-50. Le présumé braqueur a été appréhendé et son arme confisquée par certains éléments armés qui prennent la paix dans le kilomètre 5. Plusieurs personnes font savoir que ses acolytes ayant eu l'information se sont révoltés pour exiger la restitution de l'arme, ce qui a dégénéré avec des échanges des tirs à l'arme lourde et légère dans le secteur. Selon les mêmes sources, le bilan fait état de 2 morts, dont un civil atteint par une balle perdue. D'après un témoin oculaire qui a requis l'anonymat, un des chefs des gangs du PK5 basé à Gbawa entre Fatima et Kokoro en la personne de Issa Bongi est arrêté, lui et quelques éléments de sa bande par des forces de sécurité nationale. Ce lundi matin, le marché de kilomètre 5 était un peu paralysé, mais certains commerçants ont commencé à reprendre leurs activités commerciales. Et selon eux, le calme est revenu pour le moment. Pour certains habitants, le PK5 est un Far West car les groupes armés y règnent en maître et imposent leurs lois aux citoyens sans être inquiétés.
Inès Lorngopo.
Mouvement de mécontentement des étudiants de l'université de Bangui.
Ils ont manifesté ce matin devant le ministère de l'enseignement supérieur pour contester la nomination par arrêté ministériel de 2 des leurs à la commission de bourse, acte qu'ils qualifient d'illégitime selon les règles de l'ANICA. Aristide Yangoupende, conseiller juridique de l'ANICA, au micro de Faustin Modesti Zingaba.
Récemment, les élections de l'ANICA devaient être organisées pour renouveler le bureau exécutif national des étudiants centrafricains. Le recteur de l'université de Bangui avait pris une décision pour suspendre le processus sous prétexte qu'il y avait des désordres et que le processus devait reprendre dans un bref délai. Voilà aujourd'hui, 4-5 mois après, on n'a pas un bureau légal. Et aujourd'hui, la question de représenter les étudiants à la commission de bourse, selon les textes de base de l'ANICA, c'est le président de l'ANICA qui est habilité à représenter les étudiants centrafricains à toutes les commissions nationales d'attribution de bourse aux étudiants. Mais dans la tradition, même lorsque un mandat de l'ANICA arrive à terme et que les nouvelles élections ne sont pas organisées, le président en exercice doit continuer à représenter les étudiants. Mais nous avons été surpris de voir il y a 2 ou 3 jours, le ministre de l'enseignement supérieur a pris une décision pour désigner certains étudiants qui ne sont pas légitimes pour aller représenter les étudiants centrafricains. C'est ça qui nous a énervés. Nous ne sommes pas d'accord. Nous sommes venus juste dire au ministre que ça, c'est de la dictature. Nous voulons juste que le président de l'ANECA ou son vice-président puisse représenter les étudiants centrafricains à toutes les commissions nationales de bourse.
Un compromis aurait été trouvé après la réunion des cadres du dit ministère ce matin sur cette affaire.
Karine, faisant un tour dans la Sanga Mbaïré où le député de Nola 2 déplore la dégradation des infrastructures routières dans sa localité.
Constat fait lors de sa dernière mission parlementaire dans la région, selon Dieudonné Marien Dimé, l'affaissement du pont de la commune de Yamando bloque la libre circulation des biens et des personnes. Il demande au gouvernement de tout mettre en œuvre pour pallier ce problème. Dieudonné Marien Dimé au micro des Gordes.
Dernièrement, lors de mon passage à Nola, je suis revenu et j'ai décrié le fait que la route qui mène de Bangui à Nola, si le gouvernement ne réagit pas, ça va être vraiment grave. Et même pas un mois après, j'ai été rappelé, la route qui va de Nola à Berberati au niveau de Yamando, qui constitue la quatrième parallèle, la route est coupée en deux. Donc, la circulation est interrompue. Ces vieux est obligé de faire une déviation dans la brousse pour permettre à ces camions de passer. C'est vraiment regrettable pour que, à notre ère actuelle, une grande ville, le poumon de l'économie de notre pays, puisse être coupée de la capitale. C'est vraiment dommage.
Dieudonné Marien Dimé, député de Nola 2.
Retour à Bangui, où les jeunes du quartier Issa, dans le 4e arrondissement de Bangui, veulent offrir un cadre de vie décent à la population locale.
Ils ont organisé samedi des travaux de curage des canaux dans les secteurs Issa 1, 2 et 3. Objectif, lutter contre l'érosion afin de permettre à la population d'éviter de multiples cas d'inondation pendant cette saison pluvieuse. Thierry Yamangali, l'un des initiateurs de cette activité au micro de Igor Diasquin, Sénapaï.
On était interpellé par un grand frère du quartier qui était ici ensemble avec nous. Le grand s'appelle Finuru Isidore et c'était un grand qui est bon, il est toujours actif dans nos milieux des jeunes. Il nous est interpellé juste pour nous présenter un problème qui est dans notre quartier ici. Si vous voyez bien, cette ruelle a été confectionnée par la société GER. Il a été bien construit et par après on a eu l'érosion. Et le grand frère a vu, il a dit bon ben, il faut mobiliser les jeunes pour qu'on puisse vraiment essayer de parler des difficultés qui sont en train de continuer. Alors maintenant, on a vu, son idée a été une idée qui était très bonne. Alors maintenant, on a dit, nous avions besoin des grands frères qui ont des bonnes initiatives. Alors il faut vraiment le suivre pour qu'on puisse vraiment essayer de motiver les jeunes pour voir s'il y a des difficultés dans notre quartier. On va essayer de se mobiliser et puis entrer dans les activités. J'ai essayé de ventiler les informations avec nos frères qui sont ici. Ils ont dit, mais ça, c'est une bonne initiative. Si nous pouvons avoir des soutiens, on peut continuer partout ailleurs, hein, dans le 4e arrondissement.
Hors de nos frontières, Karine, la rougeole tue 2700 enfants en République démocratique du Congo en 7 mois.
L'épidémie de rougeole est plus mortelle que celle d'Ebola qui sévit actuellement dans le pays. Médecins sans frontières a déclaré que très peu a été fait pour combattre l'épidémie de rougeole dans ce pays. La République démocratique du Congo a déclaré l'épidémie de rougeole au plan national en juin. Karel Janssen, chef de mission de MSF en République démocratique du Congo, a indiqué que 23 des 26 provinces se sont touchées par cette maladie. Selon lui, le manque de vaccins et l'hygiène, la prévalence des conflits et le nombre élevé de personnes déplacées ont contribué à la propagation de la maladie.
Au Tchad, l'état d'urgence a été déclaré dans deux provinces de l'est du pays.
La décision a été prise par le chef de l'État Idriss Déby pour les trois prochains mois après des affrontements meurtriers entre communautés qui ont fait des dizaines de morts en août. Les deux provinces de Sila et de Wadaï se situent à la frontière avec le Soudan. Les conflits entre cultivateurs sédentaires et éleveurs nomades sont fréquents dans cette zone de transhumance. Cette fois encore, c'est un incident entre ces deux communautés, la découverte des corps de deux jeunes éleveurs qui a mis le feu aux poudres. Résultat, en moins de 10 jours, plus de 50 civils ont été tués. Les nouvelles sportives avec Bienvenue Bello, bonjour.
Bonjour Karine, bonjour à tous.
Ouvrons avec le football, le jour J-6 pour le match retour à Stompet Mokaf contre Elnars de Benghazi. Les Rouges et Noirs affrontent ce soir la sélection de Bagandou en match amical retour.
Ce match qui va se jouer au complexe sportif Barthélémy Boganda va permettre au staff de l'Estompet Mokaf de faire les derniers réglages avant le départ prévu mercredi matin à destination du Caire en Égypte. Le match se jouera, la manche retour du match se jouera au stade du Caire.
Deux finales de football ont été jouées hier dans les arrondissements de Bangui.
La finale de la Coupe Renaissance à Mayamaya dans le 6e arrondissement a été remportée par CS Vipère. Le score est de 5 tirs au but à 4 au détriment de FC Emmanuel. Les deux formations étaient à égalité, un but partout au temps réglementaire. Le député Augustin Agou souligne l'importance de la Coupe Renaissance qu'il organise dans les quartiers de Bangui. Il est au micro de Juvenal Kouérépédé.
Nous avons tenu à organiser cette compétition dans les 8 arrondissements de la ville de Bangui, y compris Bimbo et Begua, pour ce qu'on appelle la cohésion sociale. Parce que vous savez, depuis des décennies, hein, notre pays est divisé. La paix manque aux Centrafricains, la pauvreté est là, la misère, ça se voit à l'œil nu, le chômage des jeunes. Rien ne marche dans notre pays aujourd'hui parce que nous avons quand même 59 années d'indépendance. Donc 59 ans, c'est beaucoup. Voilà la raison qui nous a poussé à organiser cette compétition. Également, nous profitons de l'occasion pour présenter à la population le nouveau parti dénommé la Renaissance.
Et l'autre finale sponsorisée par Virginie Baïkoua dans la commune de Begua a été remportée par OJB. Il a battu 5 Isito sur la marque de 3-1 par tir au but aussi. Au temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité, un but partout.
Changeant de discipline, bienvenue. Parlons du handball, la quatrième journée du championnat retour en senior garçon a pris fin hier.
Sur le terrain de l'INGS, victoire par forfait de ASOPT devant AS Cobra. Samedi, AS Saint-Sauveur a dominé Academia 35-33. Vendredi dernier, Padre Pio a disposé de handball le club des forces de défense et de sécurité 47-41.
Et puis les 12e Jeux africains de Rabat au Maroc, 6 athlètes ont quitté Bangui hier pour y prendre part.
Il s'agit de 3 boxeurs et de 3 athlètes de taekwondo accompagnés de 2 coachs en taekwondo et en boxe. Ces jeux s'ouvriront ce soir jusqu'au 31 de ce mois. Le judo gabonais a brillé ce dimanche 18 août au Maroc avec des médailles d'or et une de bronze. Keren Agono, Sarah Mazouz et Luc Manogo ont gagné des médailles pour leur pays.
Merci, bienvenue et c'est la fin de ce journal en français. Merci aussi à vous d'avoir été des nôtres.